Luc 11, verset 29 à 36. Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire « Cette génération est mauvaise, elle réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. » En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Au cours du jugement, la reine du Sud se lèvera en face de cette génération et l'accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Au cours du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face de cette génération et l'accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque ta lampe t'illumine de sa brillante clarté.
Nous prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est liberté, vérité, sagesse et amour pour nous. Que ton esprit, Seigneur, fasse pousser ces graines dans notre cœur et que nous soyons sans cesse transformés à ton image. Amen. Nous retrouvons Jésus. On est juste après le passage qui avait été prêché il y a quelques semaines sur cette personne qui était habitée par un esprit impur, vous savez, qui le rendait muet. Et Jésus délivre cette personne, et voilà que les pharisiens lui tombent dessus en disant « Ah, c'est mal !» Et le texte que nous lisons se suit juste après. Donc il y a deux parties dans cette lecture biblique. D'abord, Jésus qui condamne cette génération mauvaise, qui lui demande un signe. Et puis il y a ce court enseignement sur la lampe, l'œil, etc. Donc je vais commenter un peu le texte pas à pas. Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire « Cette génération est mauvaise, elle réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui de Jonas. » Si nous plongeons dans le contexte, on comprend ce commentaire négatif de notre Seigneur. Il semble déçu de l'attitude de cette foule qui se rassemble, qui a assisté à un miracle, miracle qui a été... comment dire ça, attaqué par les pharisiens. Ah oui, c'est par l'esprit de Baal-Zéboub que tu as délivré cet homme. Pourquoi est-ce que ces foules qui s'amassent autour de Jésus demandent un signe? Est-ce qu'elles veulent que Jésus prouve, face à ses accusateurs, que oui, il est bien le Fils de Dieu? Est-ce qu'elles ont envie de croire, mais elles n'osent pas, parce que les pharisiens, quand même, ils ont beaucoup de puissance et de pouvoir et d'influence, alors... Si Jésus pouvait leur mettre une petite déculottée en public, ça serait facile de changer de camp. Est-ce que ils croient un peu aux propos des pharisiens et peut-être qu'effectivement Jésus n'est pas si bon que ça? Bref, ils veulent un signe et Jésus est déçu et qualifie cette génération de mauvaise. Et il ajoute « Aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui de Jonas. » En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Il est important ici d'entendre avec attention ce que dit Jésus. Nous avons le plus souvent à l'esprit que les signes, c'est des miracles, des manifestations de la puissance de Dieu. Mais Jésus dit que Jonas est un signe pour les Ninivites. Il n'a pas dit que Jonas a fait un signe pour eux. Est-ce qu'il est question des 3 jours dans le poisson, qui trouverait écho dans les 3 jours que Jésus passera dans la tombe? C'est effectivement ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Mais Luc, lui, pointe du doigt la prédication de Jonas. Ainsi, Jésus, par sa présence et sa prédication, est un signe pour cette génération. L'attitude de cette génération, lorsqu'elle est en présence du signe de Dieu, révèle qu'elle est mauvaise. Jésus continue en disant, « Au jour du jugement, la reine du Sud, » alors pour ceux qui ne savent pas, la reine du Sud, c'était la reine d'Éthiopie, on l'appelait aussi la reine de Saba, et sous le règne de Salomon, donc quelques 100 siècles avant ça, elle a fait tout le voyage depuis l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour voir si tout ce qu'elle entendait dire à propos de Salomon était vrai. Voilà, on reviendra sur cet épisode. Donc la reine du Sud se lèvera, donc elle ressuscitera, en face de cette génération et l'accusera. Car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront face à cette génération et l'accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Jésus confirme donc cette lecture des choses en comparant l'attitude d'une reine païenne, l'attitude d'une nation païenne, la reine de Saba, Ninive, face à une prédication, face à une parole inspirée de Dieu. La reine de Saba, venue d'Éthiopie, écoute la sagesse que Dieu a donnée à Salomon et elle rend gloire. Elle dit, je cite dans le livre des rois, la reine dit, « Dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse. Mais avant d'être venue voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on disait. Or, tout cela est bien vrai, et même on ne m'en avait pas raconté la moitié. Ta sagesse, ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Quel privilège pour tes femmes et pour tes gens de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence. Ils entendent tes paroles pleines de sagesse. Béni soit le Seigneur, ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait roi et qu'il t'a chargé d'y exercer la justice. » Donc la reine de Saba bénit Dieu. Elle rend gloire au Dieu d'Israël, elle, l'Éthiopienne. Et pourtant, les Juifs du temps de Jésus sont en présence de bien plus que de Salomon. Jonas, lui, est venu prêcher à Ninive, très en colère d'ailleurs, très déçu de devoir obéir à l'Éternel. Et il espérait de tout son cœur que les Ninivites n'écouteraient rien de son message. Et il annonçait la destruction de Ninive. Et voici ce que nous rapporte le texte biblique dans Jonas 3. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée !» Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus petit, revêtit une tenue de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un habit de deuil, s'assit dans la cendre et puis il fit proclamer dans Ninive ce décret par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres humains, ainsi que le gros et le petit bétail, ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit. Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision et renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. On ne comprend même pas trop comment, ni pourquoi, mais toute la cité a réagi à la prédication de Jonas, qui pourtant n'y mettait pas vraiment du sien. Il n'a pas trop annoncé la grâce, il n'a pas trop appelé à la repentance, il a juste dit « Dans 40 jours, vous êtes tous morts. » Or, les habitants de Galilée n'ont pas entendu la prédication d'un Jonas qui rouméguait, mais de Jésus venu des cieux pour leur annoncer le jugement et le salut. Alors Jésus ponctue qu'au jour du jugement dernier, la reine de Saba, les habitants de Ninive qui ressusciteront, considéreront que ceux qui auront été témoins du ministère de Jésus seront inexcusables. Voilà pour la première partie du texte. On se penche sur la suite, l'enseignement de la lampe et de l'œil. Reprenons le texte. Jésus dit « Personne n'allume une lampe pour la cacher et la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Nous sommes en période où nous allons rentrer dans des restrictions énergétiques. On va veiller à ce que les lampes dans les chambres, dans les pièces, soient éteintes quand il n'y a personne. C'est du bon sens. Mais ça serait encore plus stupide de allumer les néons et de les couvrir de scotch ou je sais pas, pour que, tout en étant allumé, ils n'éclairent pas la pièce. Vous êtes d'accord? Donc on est face à un enseignement de bon sens. Jésus enfonce une porte ouverte. Mais il le fait souvent. Quand il dit, par exemple, on avait déjà lu ça, « Qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, lui donnera une pierre ?» Ou encore cet enseignement qui dit « Lequel d'entre vous, si sa brebis tombe dans un trou un jour de sabbat, n'ira pas la rechercher ?» Jésus pose une évidence. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un seau. Personne ne fait ça. Personne n'active une source de lumière pour la dissimuler. Et je souligne que très souvent, Jésus utilise ces démonstrations de bon sens pour révéler le caractère de Dieu. Ou plutôt, pour rétablir en nous une juste perception de qui est Dieu. Vous savez, comme quand il dit « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est pousse vite, puis qui est coupée, puis qui est jetée au feu, à plus forte raison vous habillera-t-il lui-même, que votre foi est faible ?» Là aussi, il est une question de bon sens. Qui c'est qui allume une lampe ? C'est Dieu. Quelle est la lampe qui l'allume ? C'est Christ. Dieu serait-il du genre à tendre des pièges ? Je vais allumer une lampe qui brille pour apporter le salut, mais il ne faut pas que ce soit trop facile à trouver. On va la cacher, on va mettre des pièges. Non. Jésus dénonce ce type de raisonnement. Si quelqu'un allume une lampe, Dieu, c'est pour produire une lumière qui inonde la pièce, la lumière divine apportée en Israël que Christ apporte. Et Jésus dit cela, j'imagine, pour révéler que l'aveuglement de cette génération, le fait qu'il ne voit pas ce qu'il y a à voir, ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne cache pas, Dieu ne dissimule pas la lumière. Ça vient des humains qui résistent à la lumière. L'apôtre Jean a écrit « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de malice, il n'y a pas d'astuce, de trucs, d'arcane secrète, de formules magiques, d'enseignements initiatiques réservés à quelques élus d'élite ou des pouvoirs accordés à ceux et seulement ceux qui sont parvenus à. » Jésus poursuit. Ton œil est ta lampe, la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, alors tout ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière. Comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Vous comprenez que Jésus parle de manière symbolique ici. Il n'existe pas de lumière physique à observer en présence de Jésus. Il ne rayonne pas de photons qui irradieraient toutes les choses qui l'entourent, scientifiquement parlant. Il s'agit d'une lumière spirituelle. Dieu, en allumant la lampe qu'est le Christ, chasse les ténèbres qui couvrent son pays et son peuple. Ésaïe annonçait cela depuis longtemps. Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, il disait « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit la grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Il parlait de la venue du Messie. Il a écrit aussi, de la part de Dieu, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai Et l'apôtre Jean, dans son évangile, rapporte aussi ces propos que Jésus a tenus à Nicodème, le pharisien qui est venu voir Jésus dans les ténèbres. Voici comment le jugement de Dieu se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que ils font le mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Et ces paroles d'Ésaïe, quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Ils prétendent lumineux ce qui est ténèbres et ténèbres ce qui est lumineux. Ce qui est doux, ils le font passer pour amer, et ce qui est amer, ils en font quelque chose de doux. Vous voyez cette confusion entre le bien et le mal, cette inversion. Vivre dans les ténèbres, c'est cela. Alors pour revenir à cet œil, bon, la version de la Bible que j'ai lue, la Nouvelle Français Courant, je trouve, c'est dommage comment elle a traduit le texte, surtout un verset. Donc je suis allé consulter le grec et il nous manque Rémi ce matin, parce que dans la version Darby, c'est intéressant. Il est écrit « La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, dit Darby, ton corps tout entier est plein de lumière. Mais lorsque il est méchant, ton œil, ton corps est ténébreux. Prends donc garde que la lumière en toi ne soit point ténèbre. » Et effectivement, ça change le sens. Si l'œil est malade ou bien portant, nous aurons tendance à dire « c'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi de porter des lentilles de contact, de porter des lunettes. » Mais si nous suivons la traduction de Darby, alors le sens change. Le mot grec pour employer l'œil qui est méchant, c'est le même que Jésus emploie pour qualifier cette génération de méchante. On comprend mieux ce que Jésus veut dire. Si l'œil est méchant, il voit le mal. Qui vient de se passer quelques versets auparavant. Jésus guérit ce pauvre homme possédé par un esprit impur, et les pharisiens disent « Ah, c'est parce que tu as un démon en toi que tu es capable de chasser les démons. » Vous voyez ? Ils soupçonnent le mal, ils jettent le mal dans ce qui vient de se passer. C'est pourquoi il n'y aura pas de signe pour eux, parce que quoi qu'on fasse devant eux, sous leurs yeux, ils trouveront de toute façon une méthode pour détourner la vérité, puisqu'ils transforment le bien en mal et le mal en bien. Les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et ils tordent ce qui est droit et prétendent que ce qui est tortueux est droit. Aussi, nous sommes bien responsables de la lumière qui passe par nos yeux. Nous sommes bien responsables de placer tout notre être dans la lumière ou de préférer les ténèbres. L'œil qui voit, l'œil qui laisse passer la lumière, c'est celui qui est rattaché à un cœur simple, pur, droit, sans détour, sans machination, sans manipulation, sans stratagème, sans intrigue, sans complot, sans fausses excuses, sans prétention. Un œil attaché à un cœur qui a soif de vérité, de justice, d'amour, de paix, de joie. Alors comme vous et moi, j'imagine, vous vous posez la question, comment vont mes yeux? Est-ce que je vois la lumière? Est-ce qu'elle passe? Est-ce que dans mon cœur, ce que j'appelle lumière est effectivement lumière? Ou est-ce que ce que je crois pour de la lumière dans mon cœur, ce sont des ténèbres? Est-ce que mon cœur est pur? Peut-être le savez-vous, mais dans la Bible, le cœur pur signifie honnête, droit, simple. Là, à l'inverse, c'est le cœur tortueux, le cœur qui fait des machinations, qui ourdit des stratagèmes, qui tend des pièges. Jésus, dans les Béatitudes, il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Hein ? Vous voyez, c'est marrant, c'est encore lié. Question de voir. Voir. Celui qui a le cœur pur voit Dieu. Certainement, il nous faut demander à l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qu'il nous a accordé et qui demeure dans notre cœur, de renouveler et de purifier notre point de vue. Que nous ne cherchions plus à voir le mal. Paul n'écrit-il pas dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais qu'il se réjouit de la vérité. Que l'Esprit nous délivre dans nos raisonnements, dans nos pensées, afin qu'elles soient simples et droites, plutôt que tortueuses. Que nous n'aimions plus tendre des pièges, agir dans les ténèbres. Que nous cessions d'utiliser notre langage pour cacher, tromper, insinuer, sans avoir à le dire. Nous sommes des enfants de lumière, pour vivre dans sa lumière. Et si nous la recherchons sincèrement, si nous sommes prêts, peut-être à regretter, peut-être à être déçus, repris, choqués de ce que nous allons voir à propos de nous-mêmes, nous aurons aussi la joie et l'assurance de voir Dieu. Et nous serons rendus purs, allergiques au mal. Je ne peux pas contempler Dieu et être complètement content de moi. Ça ne marche pas. Si je veux contempler Dieu, je vais vivre des désillusions sur moi. Vous ne pouvez pas rencontrer un athlète de haut niveau et vous dire « qu'est-ce que je suis balèze en même temps ?» Ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si je contemple Dieu, je ne vais pas faire des très très bons constats sur moi-même. Mais je vais recevoir un amour absolument incroyable. Parce que c'est ça aussi, vivre dans la lumière. J'ai de l'assurance. Et j'ai de l'assurance pour vous aussi. Parce que déjà, vous êtes purifiés. Vous êtes purifiés à cause de l'évangile qui est en vous. C'est exactement ce que Jésus dit à ses disciples. Déjà, vous êtes purs à cause de ma parole que vous gardez. Et si vous croyez que Jésus de Nazareth, celui qui a vécu au temps d'Hérode, qui a été crucifié sur une croix et qui est ressuscité, si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, envoyé par lui pour nous sauver, déjà, vous êtes purs par cette parole qui est en vous. Mais nous tous qui avons cette foi en lui, nous devons persévérer et nous tenir dans sa lumière. Il veut nous y conduire. Il veut aplanir les sentiers de votre vie. Il va rendre droit votre sentier et vous remplira d'une joie que rien ne peut éteindre. Celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas, dit Jésus, car il voit la lumière du monde. Si Dieu rend simple et droit votre sentier par sa lumière, alors n'allez pas croire que votre vie deviendra facile. L'opposé de facile, c'est difficile. Et l'opposé de simple, c'est compliqué. Vous pouvez avoir quelque chose de très simple à faire, mais de très difficile. Par exemple, demander pardon quand on a fait quelque chose de mal. Est-ce que c'est compliqué ? Non. Est-ce que c'est difficile ? Oui. Les épreuves ne disparaîtront pas. Les tribulations non plus. La peur non plus. Mais le chemin à suivre sera évident. Simple. droit. Lorsque nous marchons sur le sentier du Seigneur, nous ne nous perdons pas. Nous ne doutons pas de la direction que nous sommes en train de suivre. Nous n'hésitons pas quant à la marche à suivre parce que les choses sont simples. Notre monde, à l'inverse, n'est pas un monde simple. Dans notre monde, il y a des complexités d'enjeux et nous sommes tout le temps en train de nous dire « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Nous sommes tout le temps en train de devoir faire des choix entre, bon, quel est le choix le moins pire? Nos relations de famille sont rarement simples et droites. Notre rapport à l'avenir, notre rapport à l'argent, les discours philosophiques, politiques que nous écoutons, sont-ils simples et clairs et limpides? Dans Le Prince de Machiavel, non, c'est pas Machiavel qui a écrit Le Prince, je sais plus qui, Dostoïevski, il décrit un prince idéal qui est presque une figure christique, donc un politicien, et ce qu'il écrit, c'est ce qui était sidérant chez cet homme, c'est que quand il parlait, c'était lumineux. Comme si c'était rare d'avoir des élus, des dirigeants qui nous parlent d'un langage clair, qui est rassurant. On se dit, je peux avoir confiance en lui parce qu'il n'est pas en train d'être tortueux. Dans toutes ces choses où nous avons facilement le sentiment d'être perdus, de ne pas comprendre, de douter de comment bien agir, de chercher la solution, de ne pas voir même lorsque nous agissons mal, Christ, lui, nous apporte sa lumière pour transformer notre sentier afin qu'il devienne simple. Et que nous ayons aussi, nous, un cœur simple. Que nous recouvrions un usage des mots simples. Que nos phrases n'aient pas deux sens, trois sens. Que nous cherchions à ce que par nos discours, l'autre soit dans une confiance, l'autre soit dans la clarté, que nous cherchions à être compris. Que nous favorisions des relations de confiance, d'assurance, que nous apprenions à tenir nos paroles et que nous n'avançons pas vers les gens avec des agendas secrets. Ah tiens, je vais solliciter telle personne parce que comme ça, peut-être qu'elle va prendre goût à faire ça et puis qu'ensuite, elle va prendre telle responsabilité dans l'église. Oh, on va pas lui dire. Il faudrait pas que ça l'effraie. En revanche, je t'appelle pour que tu participes à telle activité de l'église parce que je pense que tu pourrais vraiment apporter quelque chose. Donc, je voudrais te mettre un pied à l'étrier. Des fois, vous me verrez faire ça avec vous. Vous appelez, vous demandez des trucs et je vais me forcer d'être vrai. De pas arriver avec un agenda secret que je vous dis pas. Pour qu'on puisse être dans la confiance. Que vous puissiez vraiment dire oui ou non. Mais en sachant à quoi vous dites oui ou non. Et que on puisse faire ça les uns avec les autres. Avoir des chantiers droits, simples, lumineux, remplis de simples vérités, de justice, de droiture, de loyauté. Et qu'on chasse loin de notre cœur le mal, la duplicité, la fourberie, les ragots, les tractations, afin de devenir, plutôt de persévérer à être des enfants de lumière. Et l'Esprit est déjà à l'œuvre en vous parce que vous croyez en l'Évangile. Amen.